Anatole France, les grandes manœuvres à Montil. L'action était engagée, tout allait bien. Le général de Cuir de l'armée du Sud, dont la brigade occupait une forte position sous les bois de Saint-Colomban, fit opérer à 10 heures du matin une brillante reconnaissance qui ne signala la présence d'aucun ennemi. Après quoi, les cavaliers mangèrent la soupe, et le général, laissant son escorte à Saint-Luchaire, monta avec le capitaine Varnaud dans l'automobile qui était venu le prendre et se rendit au château de Montil, où madame la baronne de Beaumont l'avait prié à déjeuner. Le village de Montil était pavoisé. Le général passa sous un arc de triomphe élevé en son honneur, à l'entrée du parc, avec des drapeaux, des trophées d'armes et des branches de chêne unies à des rameaux de laurier. Madame la baronne de Beaumont reçut le général sur le perron du château et le conduisit dans la salle d'armes immense et tout étincelante de fer. « Oh, vous habitez une superbe résidence, madame, dit le général, et dans un beau pays. J'y ai beaucoup chassé, particulièrement chez les Bressés, où j'ai eu le plaisir de rencontrer votre fils, si je ne me trompe. Ah, vous ne vous trompez pas, dit Ernest de Beaumont, qui avait amené le général de Saint-Luchaire. Et ce qu'on sera chez les Bressés, oh, oh, c'est rien de le dire. C'était un déjeuner tout intime. Avec le général, le capitaine, la baronne et son fils, il n'y avait que Madame Vorps, Clavelin et Joseph Lacris. « Comme à la guerre, dit Madame de Beaumont en faisant asseoir le général à sa droite, devant la table fleurie que surmontait un Napoléon à cheval en biscuit de Sèvres. Le général parcourut du regard la longue galerie tendue des plus belles tapisseries qu'on connaisse de Van Onley. C'est grand ici. Le général aurait pu amener sa brigade, dit le capitaine. Mais j'aurais été heureux de la recevoir, répondit la baronne en souriant. La conversation fut simple, tranquille et cordiale. On eut eu le bon goût de ne pas parler politique. Le général était monarchiste. Il ne le disait pas, mais on le savait. Il était d'une correction parfaite. Ses deux fils s'étaient fait arrêter en criant « Panama !» sur les boulevards lors de l'avènement du président Loumet. Quant à lui, son attitude avait toujours été réservée. On parla chevaux et canons. « Oh, le nouveau 75 est un bijou !» dit le général. « Et l'on ne saurait trop admirer, ajouta le capitaine Varnaud, l'exance avec laquelle se règle le tir, oh, c'est vraiment merveilleux. Et dans la manœuvre, dit Madame Vorps Clavelin, les couvercles des caissons, par une disposition ingénieuse et nouvelle, servent d'abri aux servants. On admira les connaissances militaires de la préfète. Madame Vorps Clavelin fit aussi apprécier son caractère en parlant de Notre-Dame des Belles Feuilles. « Vous savez, général, que nous avons dans le département à Bressé même une statue miraculeuse de la Sainte Vierge. »« Oui, j'en ai entendu parler, » répondit le général. « L'abbé Guitrelle, » poursuivit Madame Vorps Clavelin, « avant d'être nommé évêque, s'intéressait beaucoup aux apparitions de Notre-Dame des Belles Feuilles. » Il a même écrit un petit livre pour prouver que Notre-Dame des Belles Feuilles est la protectrice spéciale de l'armée française. « Je le lirai, » dit le général. « Où le trouve-t-on » Madame Vorps Clavelin promit de le lui envoyer. Enfin, il ne fut tenu à table aucun propos malsonnant ou prétendant à la malveillance. Après le déjeuner, on fit un tour de parc. Le capitaine Varneux prit congé. « Que mon escorte m'attende à Saint-Luchaire, Capitaine, dit le général, et se tournant vers la crisse. Les grandes manœuvres sont une image de la guerre, mais c'est une image infidèle, sous ce rapport que tout y est prévu, tandis que la part de l'imprévu est considérable à la guerre. Voulez-vous voir la faisanderie, général? Demanda madame de Beaumont. Mais volontiers, madame. Elle se retourna. Tu ne viens pas, Ernest? Ernest avait été arrêté au passage par le bonhomme Morolin, maire de Montil. Excusez-moi, monsieur le marron, mais si vous pouviez dire deux mots au général de Cuire, parce que des fois, si on pouvait faire passer l'artillerie par le côte Saint-Jean, sur mon champ de luzerne. Elle n'est donc pas belle, votre luzerne, Rollin, que vous veuillez qu'on vous l'abîme. Si, si, qu'elle est belle, monsieur le baron. Oh, j'en tirerai une belle coupe le mois prochain. Mais l'indemnité, c'est bon à prendre. La dernière fois, c'est Oussio qui a eu l'indemnité. N'est-il pas juste que je l'ai à 7 heures? Je suis le maire, j'ai toutes les charges de la commune. C'est donc juste que, quand il y a une bonification à revenir, le général fut mené à la faisanderie. Ah, il faut, dit-il, que je rejoigne ma brigade. Oh, dit le petit baron, avec ma 30 chevaux, on est tout porté. On visita le chenil, les écuries, les jardins. Ces roses sont superbes, dit le général, qui adorait les fleurs. Le bruit du canon brouait à leurs oreilles dans l'air parfumé. C'est un bruit de fête, dit la crise, qui met la joie au cœur. Comme le son des cloches, dit madame Worms Clavelin. Vous êtes une vraie Française, madame, dit le général. Toutes vos paroles sonnent le patriotisme le plus pur. Il était 4 heures. Le général ne pouvait pas rester une minute de plus. Heureusement qu'avec la 30 chevaux, on était tout porté. Il y monta avec le petit baron, la crisse et le mécanicien, et repassa sous son arc de triomphe. En 40 minutes, il fut à Saint-Luchaire. Mais il n'y trouva pas son escorte. Tous quatre, ils cherchèrent en vain le capitaine Varneau. Le village était désert. Plus un soldat, un boucher qui passait dans sa voiture, et à qui ils demandèrent où était la brigade de cuir, leur répondit « Oh, voyez voir sur la chaussée de Cagny. Tout à l'heure, on entendait le canon dans la direction de Cagny. » « Oh, ça pétait ferme, pour sûr. »« Cagny, où ça se trouve-t-il » demanda le général. « Ne vous inquiétez pas, je sais, dit le petit baron. Je vais vous conduire. » Et comme la course devait être un peu longue, il passa au général un cache-poussière, une casquette et des lunettes. Ils s'engagèrent sur la route départementale, passèrent Saint-André, Villeneuve, Le Tal, Saint-Porcin, Truffem, Mirange, et virent l'étang de Cagny, cuivré par le soleil couchant. Ils rencontrèrent sur la chaussée des dragons de l'armée du Nord, qui ne savaient pas où se trouvait la brigade de cuir, mais qui affirmèrent que des troupes de l'armée du Sud étaient engagées à Saint-Paulin. Saint-Paulin était à 45 kilomètres dans la direction de Montil. L'automobile vira, reprit la route départementale, repassa Mirange, Truffem, Saint-Porcin, Le Tab, Villeneuve et Saint-André. « Donnez plus de vitesse !» commanda le petit baron. Et la voiture traversa les rues de Véry-les-Fougerets, de Sutières et de Relva-Vicomté, soulevant un nuage de poussière dorée comme une gloire, écrasant les poules et les cochons, elle rencontra, à 2 kilomètres de Saint-Paulin, les avant-postes de l'armée du Sud qui tenaient la Saulaie, Melville et la Sourdaye. Là, ils apprirent que toute l'armée du Nord était de l'autre côté de l'îlette. Ils se dirigèrent sur Torcy-la-Mirande pour atteindre la rivière à la hauteur du vieux Mac. Après 1 heure de marche, comme ils voyaient dans la clarté du soir de blanches vapeurs trembler au creux des prairies, « Bigre, dit le jeune baron, nous ne pouvons pas passer. Le pont de l'îlette est détruit. »« Comment ? S'écria le général. Le pont de l'îlette est détruit, mais qu'est-ce que vous dites là, le pont détruit ? Dame, mon général, dans le thème des manœuvres, il est détruit, fictivement. » Le général de cuir n'aimait pas les mauvaises plaisanteries. « Vous avez de l'esprit, jeune homme, » dit-il amèrement. À vieux bac, ils passèrent le pont de fer avec un bruit de tonnerre et suivirent l'ancienne route romaine qui relie Torcy-la-Mirande au chef-lieu du département. Dans le ciel, Vénus, près du croissant de lune, allumait sa flamme argentée. Ils firent 30 kilomètres environ, sans rencontrer de troupes. Il y eut à Saint-Évariste une côte terrible à monter. La machine, comme un animal fatigué, gémit mais ne s'arrêta pas. À la descente, elle passa sur des pierres et fut près de verser dans un fossé. La route ensuite est excellente jusqu'à Malmanche, où ils arrivèrent de nuit pendant une alerte. Le ciel brillait d'étoiles. Les clairons sonnaient. Sur la route bleue, des falots agitaient leurs chevelures de lumière fauve. Des fantassins dévalaient des maisons. Les habitants étaient aux fenêtres. « Ces opérations, dit la crise, quoique fictives, sont réellement impressionnantes. » Le général apprit que sa brigade occupait Villeneuve, sur le flanc gauche de l'armée victorieuse. L'ennemi était en pleine retraite. Villeneuve est au confluent de l'Islette et de la Chclaine, à 20 kilomètres de Malblanche. À Villeneuve, dit le général. Enfin, nous savons à quoi nous en tenir. C'est pas malheureux. La route de Villeneuve était encombrée de canons, de caissons et d'artilleurs endormis dans leurs grands manteaux, à travers lesquels la voiture eut grand-peine à se faire un chemin. Une cantinière, assise dans sa voiture éclairée de lanternes chinoises, héla les chauffeurs pour leur offrir le café et des liqueurs. « Oh, c'est pas de refus, dit le général. Nous avons avalé pas mal de poussière en manœuvre. » Ils burent un petit verre et poussèrent jusqu'à Villeneuve, qui était occupée par de l'infanterie. « Et ma brigade ?» s'écria le général inquiet. Ils interrogèrent anxieusement les officiers qu'ils rencontrèrent, mais on n'avait pas de nouvelles de la brigade de cuir. « Comment pas de nouvelles? Elle n'est pas à Villeneuve? C'est incroyable !» Une voix de femme sonna en l'air comme une clochette. « Messieurs !» Ils levèrent la tête et virent la tête étoilée de papillotes de la buraliste des postes. « Messieurs, il y a 2 Villeneuve. Ici, c'est Villeneuve-sur-Clair. Vous voulez peut-être aller à Villeneuve-la-Bataille ?»«
Oui, peut-être, » dit le jeune baron.
« Oh, mais c'est que c'est loin, » dit la buraliste. « Faudrait aller d'abord à Montil. Vous connaissez Montil ?»«
Oui, » répondit le petit baron, « nous connaissons Montil. »«
Alors vous allez ensuite à Saint-Michel-du-Mont, vous prenez la route nationale et... »
De la maison voisine à Panonceau doré, une tête sortit, encore né d'un foulard.
« Messieurs !»
et le notaire de Villeneuve-sur-Clène donna son avis.
« Pour aller à Villeneuve-la-Bataille,
Vous aurez plutôt fait de traverser la forêt de Tongue. Vous allez à la croix du Perron, vous tournez à droite. Au suffit, je connais la forêt de Tongue, dit le petit baron. J'y ai chassé avec les Bressés. Merci, monsieur. Merci, mademoiselle.
Il n'y a pas de quoi, dit la buraliste.
À votre service, messieurs, dit le notaire.
Et si nous allions à l'auberge faire un cocktail, dit le petit baron.
Oui, je mangerai bien un morceau, dit Jacques-Risse. Je suis fourbu.
Un peu de courage, messieurs, dit le général.
Nous nous referons à Villeneuve la bataille.
Et ils partirent. Ils traversèrent Vély, La Roche, les Saules, Melette, la Taillerie, et ils entrèrent dans la forêt de Tremble. Une lumière éclatante courait devant eux dans l'ombre de la nuit et des bois. Ils atteignirent la croix du Perron, puis le carrefour du roi Henri. Ils voulaient être éperdument dans le silence et la solitude. Ils virent passer des cerfs, ils virent des lueurs aux cabanes des charbonniers. Soudain, dans une allée creuse, un bruit sinistre d'explosion les fit tressaillir. La machine dérape et va buter contre un arbre.
« Mais qu'est-ce qu'il y a ?» demanda le général culbuté.
La crise gémit, étendue sur un lit de fougère.
« Mais Ernest, une lanterne à la main, dit d'une voix sinistre, « Le pneu est crevé, et le plus mauvais de la chose, c'est que le train de devant est faussé. »